Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Direction donc les quarts de finale pour nos handballeuses françaises à Tokyo.
Et victoire il y a un peu plus d'une heure, 29 à 22 face au Brésil. Les Bleus mettent donc fin à une série de 3 matchs sans victoire et assurent leur survie dans la compétition. On part au JO dès le début de ce journal. Nous n'arriverons pas à empêcher l'épidémie, mais nous pourrons la ralentir. C'est le message du directeur régional de l'ARS en Occitanie. Là-bas, les hospitalisations ont été multipliées par 10 en un mois. Un conteneur de 9 mètres carrés envahi par les rats, c'est dans ces conditions que vivent les habitants d'un quartier de Marseille en attendant d'être relogés. Enfin, 3 mois après leur titre de champion de France, le LOSC vole le trophée des champions au Paris Saint-Germain. Vous entendrez la joie du nouvel entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec.
Et puis après le journal, comme chaque jour, les conseils de chef, on se fera un clafoutis aux abricots. On va commencer par le dessert aujourd'hui.
RTL à Tokyo.
Déjà 10 jours à Tokyo et 21 médailles pour la France, dont 5 titres olympiques. Nos tricolores, pour le moment, 7e du classement. Et déjà, une bonne nouvelle ce matin, puisque nos handballeuses se sont qualifiées pour les quarts de finale en battant le Brésil. Nicolas Burnand, c'était tout à l'heure.
Oui, au Yoyogi Stadium, les Bleus ont arraché leur place 29 à 22 en dominant les Brésiliennes qui jouaient aussi leur survie. Les 16 vice-championnes olympiques à Rio avaient eu peur en perdant contre la Russie samedi dernier. Elles devaient donc absolument battre le Brésil pour continuer. C'est fait. Les filles ont notamment assuré leur succès par des tirs de loin très efficaces et une belle cohésion d'équipe. Écoutez la satisfaction du sélectionneur Olivier Crumbles au micro de nos confrères de France Télévisions.
Je pense qu'on a eu une belle qualité de jeu, on a bien défendu, on a retrouvé nos gardiennes de but à un niveau très haut et voire exceptionnel par moment. Donc ça fait du bien. Je suis très heureux, c'est de bon augure pour la suite. On est sorti de l'ornière, on est sorti de ce piège, de cette poule. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir totalement se lâcher sur le quart de finale.
Ces quarts de finale qui se disputeront mercredi, on ne connaît pas encore l'adversaire des Françaises. L'or olympique est le seul titre qui manque au palmarès du handball féminin.
Nicolas Burnand, envoyé spécial de RTL à Tokyo. La grosse déception, c'est l'élimination de Kumba Larocque dès le premier tour de la lutte chez les moins de 68 kilos. La championne d'Europe peut encore être repêchée et décrocher le bronze si son adversaire mongol va jusqu'en finale. Et puis en tir à 25 mètres, qualification pour la finale de Jean Quincampoix. Le vice-champion olympique 2016 va tenter de décrocher une médaille à partir de 7h30. Et puis à 7h10, ce sera le journal des JO. Et votre rendez-vous quotidien, c'est On refait les Jeux à 18h30 avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol.
RTL 6h33, l'actualité Hortense, c'est également la situation sanitaire très fragile et incertaine en France.
Ce sont les mots employés par Olivier Véran ce week-end dans les colonnes de Ouest-France. La tension dans les hôpitaux est toujours forte. 700 nouvelles admissions en une semaine. En Occitanie, leur chiffre a été multiplié par 10 en un mois. Une recrudescence des cas très présente, donc comme au SAMU de Haute-Garonne à Toulouse où vous vous êtes rendu, Benjamin Pelsi.
SAMU 31, bonjour.
Il y a un mois encore, ce centre d'appel ne recevait plus d'urgence. Covid, aujourd'hui, c'est un patient sur 4.
D'accord. Vous avez froid, vous avez mal quelque part?
En l'espace de 15 jours, on a vu les chiffres exploser à tous les niveaux.
Le docteur François Consina est urgentiste au SAMU 31 et à l'hôpital Purpan.
Que ce soit au téléphone, à la régulation, que ce soit le nombre d'ambulances qu'on envoie chez des gens qui ont le Covid, le nombre d'entrées aux urgences, le nombre de patients qu'on doit hospitaliser, c'est beaucoup des trentenaires, c'est beaucoup des gens qui ne sont pas vaccinés d'une manière générale. C'est encore quelques personnes âgées non vaccinées, c'est des gens qui, jusqu'à présent, visiblement, se sentaient pas concernés par la problématique.
Et certains malades refusent d'admettre qu'ils sont atteints du Covid.
Ils nous répondent non, ou ils nous répondent c'est pas vrai, je suis pas malade. J'en ai 3 qui ont quitté le service alors que j'étais pas d'accord.
139 personnes sont hospitalisées en réanimation dans la région, un chiffre qui pourrait monter à 250 d'ici une semaine, selon l'Institut Pasteur, et la vague arrive au pire moment.
On est en période où la moitié de l'effectif a pas encore pris les congés, tout le monde s'inquiète de savoir s'ils vont pouvoir partir en vacances. C'est vrai qu'on se dit, on ne sait pas comment on va passer le mois d'août, quoi.
Pour empêcher la saturation des hôpitaux, le directeur général de l'Agence régionale de santé, Pierre Ricardo, en appelle à la population.
Nous n'arriverons pas à empêcher l'épidémie, mais nous pouvons la ralentir. Respecter les gestes barrières, ça a un impact, c'est efficace. La deuxième chose qui fonctionne et qui est la seule arme fatale contre le Covid, c'est la vaccination. Il faut être extrêmement vigilant dans les jours qui viennent en région Occitanie.
Des créneaux de vaccination sans rendez-vous sont disponibles toute la semaine dans la région.
Benjamin Pelsi à Toulouse pour RTL.
Vous nous écoutez peut-être dans la voiture et si oui, un petit coup d'œil dans le rétroviseur s'impose. Vous pourriez être doublé par un deux roues.
Eh bien, interdite depuis le début de l'année, la circulation des motos entre deux files est de nouveau expérimentée pour 3 ans dès ce matin. Cela concerne 21 départements comme l'Île-de-France, la Gironde, le Nord, l'Hérault ou encore Lyon, où vous avez rencontré des motards heureux de pouvoir à nouveau se faufiler, Frédéric Perruche.
Pour les motards lyonnais, cette relance de l'interfile, comme ils l'appellent, c'est la fin de l'hypocrisie, car la pratique, malgré l'interdiction fin janvier, n'a jamais cessé.
On n'a pas vraiment arrêté en fait. Donc l'avantage, c'est qu'on sera plus verbalisé. 35 balles. Là, le fait qu'ils le réautorisent, ça fait du bien. Ça évite les amendes. C'est l'avantage d'être en deux roues aussi. On a plein de désavantages, donc il faut bien qu'on ait quelques avantages quand même.
La circulation interfile, la CIF, permet un gain de temps pour les motards, limite les bouchons et réduit peut-être la pollution, même si elle nécessite beaucoup d'attention pour éviter les accidents.
Moi, personnellement, quand je fais des dépassements sur mon interfile, je roule relativement doucement, j'essaie de capter le regard du conducteur, bien regarder en fait ce qui nous entoure. Ma moto fait un petit peu de bruit, mais c'est un avantage aussi parce que les gens m'entendent arriver, donc ils se disent « Oula, il y a une moto, warning !» Et
faire péter le moteur et faire bien hurler fort l'échappement pour leur signaler qu'on est là, parce que juste le petit klaxon, des fois, ça sert à rien.
Quant aux automobilistes, ils voient plutôt d'un mauvais œil le retour de l'expérimentation pour 3 ans.
Le fait de faufiler comme ça entre les voitures, ça peut être surprenant, en fait, pour le conducteur. On les voit pas, en fait. C'est vrai que de temps à autre, on regarde sur les rétros, mais surtout quand ils arrivent en grande allure, je trouve que c'est dangereux.
Mais les vitesses seront limitées, 50 km/h au maximum, et pas plus de 30 quand la circulation est arrêtée.
Au reportage de Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. En bref, 102, c'est le nombre de féminicides commis en France l'an dernier. Un chiffre dévoilé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans Le Parisien, le plus bas depuis 15 ans. Gérald Darmanin qui souhaite d'ailleurs que les plaintes pour violences conjugales soient traitées en priorité et qu'un officier spécialisé soit présent dans chaque commissariat et gendarmerie.
Ils vivent dans des conteneurs de 10 mètres carrés. Ça se passe à Marseille. On en parle dans un instant. Il est 6h37 sur RTL.
RTL Matin.
6h37, la suite du journal d'Hortense Crépin. Un conteneur de 11 mètres carrés, précisément la taille d'une cellule de prison. C'est dans ces conditions que vivent en ce moment des habitants à Marseille.
Alors que la préfecture appelle à relancer la construction de logements sociaux, dans un quartier populaire, c'est dans cet habitat indigne que plusieurs locataires sont logés par leurs bailleurs, faute de place, en attendant la réfection de leur résidence. Un quotidien atroce pour ces habitants que vous avez rencontrés, Samia Belbachir.
Des containers de marchandises où vivent des hommes depuis plusieurs mois. La moitié d'entre eux n'a pas de fenêtre. La journée et la nuit, Bader est obligé de vivre avec la porte de son container grande ouverte.
Vous voyez comment il est. Il y a la chaleur, on a un climat, ça ne marche pas bien, mais on n'a pas le choix.
Amélie est ancien combattant, il vit ici depuis 3 mois. À l'intérieur, un lit, une place, une chaise, un petit coin cuisine et des sanitaires, 9 mètres carrés de surface.
Ça ressemble à une prison, eh oui.
Juste pour le dépannage, c'est tout.
C'est dur de vivre ici ?
Oui, bien sûr, comme les rats.
Un dépannage qui dure depuis 1 an et demi pour Hakim, même chose pour Ali.
Les rats, c'est dans lui qu'ils sortent. À partir de 21h, ça commence. On a pris l'habitude. Là.
Chaleur, insécurité, nuisible. Les locataires déboursent chaque mois près de 400 euros pour ce logement attribué en attendant la réhabilitation d'autres appartements. Contactez le bailleur. Adoma n'a pas donné suite à notre demande.
En reportage à Marseille de Samia Belbachir.
En football, le championnat de Ligue 1 reprend vendredi, mais les supporters parisiens et lillois ont déjà eu un avant-goût de la saison.
Avec comme un air de déjà-vu hier soir à Tel Aviv, puisque Paris s'est incliné face aux champions de France 1-0 et perd donc le trophée des champions. Le PSG était tenant du titre depuis 8 ans, mais c'est un but de Tcheka qui, en fin de première période, a offert la victoire aux hommes de Jocelyn Gourvennec, le successeur de Christophe Galtier, qui a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage. À rendre hommage au nouvel entraîneur de Nice.
Quand on joue un trophée comme ça, c'est le titre qui compte, évidemment. Après, il faut mettre ce qu'il faut dans le match. Je trouve qu'on a fait une très bonne première mi-temps. On a souffert en deuxième parce que Paris a eu une qualité technique élevée. Nous, on n'a pas suffisamment tenu nos ballons non plus. Quand on l'a récupéré, on l'a perdu très vite et c'était difficile. On a beaucoup subi en deuxième. Mais les joueurs sont habitués à ça aussi. Il y a eu des moments dans la saison dernière où ils étaient aussi comme ça sur un bloc plus bas à subir et ils sont bons là-dedans et on est resté solide. Et je le dis aussi très simplement, je partage ce titre-là aussi avec Christophe parce qu'il a fait un travail remarquable l'année dernière avec son staff. Il avait fait le choix de partir, mais c'est aussi un peu son titre.
L'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, chez nos confrères d'Amazon Prime. Le début du championnat de Ligue 1, c'est donc vendredi. Paris se déplacera à 3 samedi à 21h. Et puis dimanche, Lille sera à Metz à 17h.
Et vous déplacerez pour le journal de 7h30.
Exactement,
tout à l'heure.
Hortense. À tout à l'heure.